Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvel horaire pour les têtes chercheuses cet été. Je vous propose tous les samedis cet été sur France Culture de réécouter les têtes chercheuses que nous avons invitées pour l'émission « Un autre jour est possible ». Marion Fontaine parlera de la classe ouvrière, Sylvia Pérez-Victoria du retour à la Terre comme défi du 21e siècle. On parlera aussi des femmes au Moyen-Âge. En dehors des idées reçues avec Julie Pilorger, on parlera culture aussi avec Pierre Jourde, on parlera des oiseaux, on parlera de Palmyre, on parlera même de la bande dessinée. Ce sera pour samedi prochain, l'art des âges et des images par Tristan Garcia. Mais aujourd'hui, je vous propose, pour commencer cette série d'été, Pierre-Henri Tavoyau, le philosophe qui, avec son frère, a beaucoup travaillé sur les abeilles. Les abeilles, ou le sens des choses, de la nature et de la pensée. C'est parti.
Alors les anciens sont particulièrement fascinés par cette ruche parce que effectivement c'est le modèle de la monarchie. Il y a cette reine. Alors cette reine, on a longtemps pensé qu'elle était un roi. D'abord parce que c'était inconcevable qu'une reine puisse régner avec autant de perfection. Donc cette reine est un roi. Aristote dit que il a un petit doute sur la question, mais il dit quand même que on n'a jamais vu une reine armée, une femelle armée. Donc cette femelle a un dard, donc ça ne peut pas être une femelle, c'est donc un roi. Ce roi assure la cohésion de la ruche, l'organisation de la ruche, et si on veut bien régner, cette ruche est un miroir du prince. Cette idée, on la trouve chez Sénèque, on la trouve chez Louis XIV, on la trouve chez Fénelon, enfin toute une série d'auteurs qui vont raconter qu'effectivement, cette royauté est absolument parfaite et idéale.
Alors pourquoi on dit que le philosophe conduit l'homme politique vers l'abeille, car elle lui permet d'apprendre où est son devoir ?
Il y a plein d'exemples possibles, mais il y en a un qui est particulier, c'est que la reine des abeilles a un dard, mais elle ne s'en sert pas. Donc ça c'est parfait, parce que ça veut dire que c'est le modèle de l'autorité. L'autorité c'est avoir la puissance, la force, mais ne pas avoir besoin de s'en servir. Et donc la reine réussit ce coup de force extraordinaire d'assurer ce qui est l'énigme politique par excellence, d'assurer l'obéissance volontaire. C'est ça la politique, c'est comment on fait dans une société pour que les gens obéissent volontairement. Ou se soumettent volontairement, c'est la servitude volontaire de la Boétie, mais obéissent volontairement. Eh bien, la reine y parvient en assurant à chacun sa fonction, sa place, de manière absolument parfaite dans la ruche. Voilà, c'est ça le miracle, et c'est pour ça que les philosophes en ont autant parlé.
Alors, on peut dire, Pierre-Henri Tavoyau, l'abeille ou l'organisation d'une ruche renvoie plutôt à une monarchie idéale. Or, vous dites de tous les régimes politiques.
Oui, de tous, parce que effectivement, il y a une monarchie, il y a une aristocratie, il y a aussi une république. La république, l'image vient du fait que les abeilles se sacrifient parfaitement volontiers, non pas pour la reine d'ailleurs, mais pour la défense de la ruche. Les abeilles sont en quelque sorte des petits kamikazes, puisque quand elles piquent, elles meurent. Et donc ça représente la vertu républicaine, et qu'on retrouve dans les textes de Virgile, dans les Georgiques, etc. Mais pour les modernes aussi, ça représente une espèce de motion de synthèse. De la même manière que la monarchie a des avantages, l'aristocratie a des avantages, la république a des avantages, mais aussi ils ont plein d'inconvénients. Et donc l'abeille représentait pour les anciens une espèce de motion de synthèse entre ces trois régimes. C'était à la fois une monarchie, à la fois une république, à la fois une aristocratie, les trois ensemble. Ce que les Romains appelaient le gouvernement mixte. Mais on retrouve ça chez les modernes. Puisque l'abeille, chez les modernes, est à la fois un régime anarchiste, communiste et libéral.
Alors pourquoi anarchiste ?
Alors d'abord, par référence au grand penseur anarchiste Proudhon, qui, pour penser l'anarchie, c'est-à-dire l'idée que on peut produire un ordre sans domination, C'est ça l'idée de l'anarchie. Hein. L'anarchie, c'est pas le désordre, ça c'est les critiques de l'anarchie, mais l'anarchie, c'est l'idée qu'on peut arriver à un ordre sans domination, c'est-à-dire sans chef.
Sans dieu de maître, ouais.
Et précisément, ce que constate Proudhon, c'est que la reine ne gouverne pas, ne domine pas, en fait c'est une mère. En l'occurrence. Et donc cette reine assure simplement la bonne organisation de l'ensemble, et chacun est à sa place, chacun cherchant son propre intérêt, contribue à l'harmonie de l'ensemble. Et ça fonctionne parfaitement. Et ce que Proudhon essaie d'identifier dans la ruche, c'est le secret en quelque sorte de ce rêve anarchiste d'un ordre sans domination.
Et je suppose que pour le communisme, ça renvoie aux ouvrières, aux ouvriers de la ruche.
La propriété commune. Alors là encore, il faut être nuancé parce que Marx a écrit un texte très célèbre, d'ailleurs qui sera repris par François Mitterrand, qui s'appelle « L'abeille et l'architecte », où il montre qu'effectivement, l'abeille n'est pas une architecte. C'est-à-dire l'architecte travaille, réfléchit, et l'abeille n'a pas besoin de réfléchir pour réaliser ses constructions. C'est pour ça que les ruches sont bien mieux construites depuis la nuit des temps que les maisons des humains, qui peuvent s'effondrer, qui sont pas très bien foutu, enfin voilà. La ruche, c'est toujours parfait, ça fonctionne très bien. Donc il dit, voilà, il y a une différence notable entre l'abeille et l'architecte. Mais en même temps, d'autres penseurs, des entomologistes, des scientifiques, vont considérer qu'il y a malgré tout un modèle idéal communiste dans la ruche. Et c'est dans un texte plus tardif, qui est le texte de Engels, quand il réfléchit sur l'origine de la famille, donc un texte qui se base sur des notes de Marx, où il montre que à l'origine, il y a eu un modèle matriarcal où la propriété était commune, que c'est sans doute le modèle originel de l'humanité, qu'on en est sorti, mais ce modèle-là entérine en quelque sorte le communisme primitif. C'est une des thèses de Marx qui était qu'il y avait un communisme primitif et qu'il fallait ensuite aller au communiste final. Et donc, l'abeille est communiste parce que la ruche représente ce qui nous rappelle le plus ce modèle matriarcal de l'origine. Voilà. Et donc, il s'inspire pour ça d'un penseur romantique allemand qui s'appelle Bachofen, qui avait le premier énoncé cette idée. Et donc, voilà, l'abeille est aussi communiste de ce point de vue-là.
Anarchiste, communiste et capitaliste. Et là, je suppose, Pierre-Henri Tavoyau, que vous allez me parler de rendement dans la ruche.
Il y a le rendement, il y a le fait que ça travaille, mais il y a le fait qu'il y a une économie, qu'il y a de la production. C'est vrai que c'est l'insecte, on parle souvent des fourmis et des araignées aussi, hein, qui sont des insectes très fascinants, mais l'abeille a cette vertu supplémentaire qu'elle se contente pas de stocker, mais qu'elle produit et qu'elle transforme de la valeur. Et donc, elle produit de la valeur. Mais au-delà de ça, il y a un grand texte, et peut-être le premier texte de la pensée libérale, qui est un texte fameux, qui s'appelle « La fable des abeilles », dont l'auteur est Mandeville. Mandeville, c'est un philosophe qui n'est pas forcément très connu habituellement, mais qui va beaucoup inspirer notamment Adam Smith et cette fameuse théorie du marché, la main invisible. La thèse de Mandeville est extrêmement simple, c'est « Les vices privés font le bien commun ». Ça veut dire, en deux mots, enrichissez-vous, soyez vicieux, ayez tous les péchés du monde, ne cherchez pas la vertu, parce que si vous êtes vertueux, l'économie va s'effondrer. Personne ne voudra dépenser, personne ne voudra duper le voisin, et tout ça va entraîner une espèce d'austérité, on y est, qui va être très nocive pour la collectivité. Donc, au contraire, soyez vicieux et tout le monde s'en portera très bien. Et il prend pour figurer cette idée, qui est un peu provocatrice dans l'époque, c'est 1710 à peu près, hein. Il prend l'image de deux ruches, une ruche parfaitement vicieuse qui fonctionne merveilleusement bien, c'est en fait l'Angleterre de l'époque, et puis une ruche vertueuse qui finit par s'exténuer à force de vertu. Et donc, voilà le premier texte qui va théoriser en quelque sorte de manière humoristique la théorie du marché. Et c'est encore l'abeille qui est utilisée pour le penser. Donc, vous voyez, les trois sont réconciliés.
Oui, le spectre est très large. D'ailleurs, vous citez dans votre ouvrage « L'abeille et le philosophe » co-signé avec votre frère, apiculteur François Tavoyau. C'est édité chez Odile Jacob. Des textes d'identification au modèle de la ruche, de l'abeille. Et ça va effectivement de Marx à Napoléon.
Oui, alors Napoléon, c'est l'épisode le plus célèbre. Hein. Quand Napoléon devient empereur, il se demande quels vont être les symboles qu'il peut utiliser. Donc il y aura l'aigle qui va sortir. Mais juste après l'aigle, il réunit une petite commission de spécialistes de la com de l'époque et on lui sort l'abeille. Parce que l'abeille, dira ses conseillers, notamment Cambacérès, l'abeille est l'image de la République qui a un chef. C'est-à-dire exactement ce dont Napoléon a besoin pour terminer la Révolution. Il y a une République, mais elle a besoin d'un chef. Et cette abeille va reprendre le logo, en quelque sorte, de la fleur de lys. Donc ça rappelle la fleur de lys et ça rappelle des éléments qui renouent avec la tradition monarchiste française. Donc ça marche très très bien.
Voilà pour le modèle politique. Et si on parlait maintenant de l'ordre social, vous nous l'avez précisé en début d'émission, Pierre-Henri Tavoyot, que le sexe de l'abeille n'a été identifié comme féminin que très tardivement, entre le XVIe siècle, XVIIe siècle, c'est ça?
Au XVIIe siècle, comme par hasard, enfin XVIe et XVIIe, c'est comme par hasard au moment, enfin pour la reine en tout cas, où il y avait en Angleterre...
C'est l'anglais d'ailleurs, c'est Charles Butler.
Ouais, Charles Butler, et au moment où comme par hasard, effectivement, il y avait une reine en Angleterre, Elisabeth Ier. Donc il a fallu qu'il y ait une reine réelle qui gouverne pour qu'on se dise, tiens, peut-être que le roi de la ruche est aussi une reine. Alors, de façon générale, la question de la sexualité des abeilles a fasciné. C'était très très problématique, puisque on savait pas quel sexe avaient les abeilles. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'avait jamais vu les abeilles copuler. Voilà, pas de sexualité entre les abeilles, et pourtant ça se reproduit, ces bestioles. Donc comment ça marche ? Ça, c'est quelque chose qui va fasciner Aristote, mais on ne comprend pas du tout comment ça fonctionne. Et donc, on pense que les abeilles sont parfaitement vierges, et que leur reproduction se fait par génération spontanée ou par... Ouais. Voilà. Mais en tout cas, la sexualité est très troublante. Mais le plus troublant, et je reviens à la question sur l'ordre social, c'est qu'il y a dans cette petite cité une diversité. Ce qui n'existe pas chez les fourmis, qui n'existe pas dans les autres insectes. Vous avez dans une même ruche la reine, les ouvrières et les faux bourdons. Et les rapports entre ces trois catégories, ces trois castes, rappellent quand même franchement la cité humaine. Comment ça se fait? Comment ils se reproduisent entre eux? Comment ça marche? On ne comprend rien. Et c'est cette projection, c'est ça l'idée, cette projection sur le mystère de la ruche qui va, pour la plupart des penseurs, faire en sorte qu'on va aussi réfléchir sur des solutions pour la cité des humains. Quand vous allez regarder les abeilles, même la petite danse des abeilles un jour de printemps, à l'insu de votre plein gré, comme on disait jadis, vous êtes pris par une espèce d'admiration, de fascination, de voir la danse des abeilles, de voir leur va-et-vient, de voir leur production. Et puis vous vous rapprochez, avec toutes les prudences requises, et comment dire, comme ça, une espèce de méditation métaphysique sur l'ordre des choses, sur le sens de la vie se met en place. Et ce qui vous arrive spontanément est arrivé en fait à peu près à tous les philosophes. En regardant la ruche, on s'aperçoit et on projette en quelque sorte toutes les questions essentielles. Alors, les questions les plus essentielles, c'est comment fonctionne le monde. Alors ça, c'est Aristote, en quelque sorte, qui se la pose directement. Il faut dire qu'Aristote a passé un temps énorme à regarder et à parler de la ruche. Dans ses œuvres, la place des abeilles, alors qu'il y a 1000 espèces dont il parle, est la seconde après l'homme, et devant toutes les autres espèces. Alors, on se pose la question, pourquoi le grand penseur de l'Antiquité, le physicien, le philosophe, le récepteur d'Alexandre, a passé autant de temps à comprendre, essayer de comprendre comment fonctionnait la ruche. Alors la réponse en fait est très simple. Pour Aristote, la ruche est un microcosme, c'est un petit cosmos. Alors il faut bien avoir en tête que le mot cosmos chez les Grecs, c'est un mot lourd de sens. Cosmos, ça veut dire qu'il y a un ordre du monde qui est parfaitement harmonieux, parfaitement juste, parfaitement bon. Hein, c'est, cet ordre est un ordre qui existe partout, aussi bien dans le plus petit que dans le plus grand. Et il faut le décrire. On le voit assez bien dans les étoiles, notamment dans le fait que la régularité des mouvements stellaires, parfaitement circulaire, d'ailleurs, pensaient les Grecs, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, explique la perfection des choses. Donc dans le monde d'en haut, c'est parfait. Dans le monde d'en bas, sous la Lune, le monde des hommes notamment, c'est un peu désordonné, on a plus de mal à identifier cet ordre. Regardons la ruche, et on va retrouver un ordre absolument similaire. Et donc Aristote se passe énormément de temps en se disant que, en regardant la ruche, on va trouver la clé de l'énigme de l'ordre du monde. Et donc c'est ça l'entreprise philosophique d'Aristote. Et donc il va notamment expliquer comment s'articulent les différents rapports entre les espèces, comment les désordres apparents participent d'une même finalité. Ce ne sont pas des aléas, ce ne sont pas du hasard. Chaque chose a une fonction. Par exemple, très intéressant, les faux bourdons. Alors Aristote pensait que les faux bourdons ne servaient pas à la fécondation. En vérité, on sait aujourd'hui que les faux bourdons servent à la fécondation de la reine, mais Aristote n'avait pas pu l'observer parce que les fécondations de la reine se situent à l'extérieur de la ruche et en plein vol. Et donc c'est qu'à une date très récente qu'on a pu observer que la reine se faisait féconder en plein vol par les faux bourdons d'une ruche voisine. Aristote ne l'avait pas vu. Donc ils se disent, à quoi servent les faux bourdons ? Comme la nature ne fait rien en vain, comme dit Aristote, eh bien il dit que d'une certaine façon, elle met une forme, ces faux bourdons mettent une forme de désordre qui est nécessaire à un ordre supplémentaire. Donc certes, ils sont paresseux, ils sont inutiles, ils mangent, c'est un peu comme des métèques. Alors on a longtemps pensé, puisqu'on ne comprenait pas comment la ruche se reproduisait, qu'il y avait un phénomène de génération spontanée, c'est-à-dire que l'abeille mourrait et puis se régénérait dans un corps mort. C'est ce qu'on appelle à l'époque la bougonie, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des cadavres de bœufs et de ces bœufs, l'abeille se régénérait. Ce qui est une métaphore et un mythe, effectivement, de la
réincarnation.
De la réincarnation, exactement. Mmh. Donc l'abeille, en fait, représente effectivement cette âme qui sort du corps et parvient à se transplanter dans un autre corps. Et on trouve cette image aussi bien dans le mythe d'Aristée, premier grand mythe, que chez Porphyre, un penseur néoplatonicien. Mais on le retrouve aussi chez Michelet. Beaucoup plus tardivement dans un texte qu'il a écrit qui s'appelle « Les insectes » où se promenant dans le cimetière où son fils était enterré, voit en plein mois de novembre, je crois, même s'il faisait très beau, des abeilles. Il dit « C'est pas possible, c'est pas des abeilles ». Il dit « Ah mais ça y est, j'ai compris, ce sont des âmes, ce sont les âmes ». Voilà. Et donc on retrouve cette mythologie de l'âme abeille de l'antiquité la plus éloignée jusqu'à la modernité presque contemporaine.
Mais en passant par le XVIIe siècle, en passant par les cartésiens, en passant par Descartes, il y a une autre forme de pensée autour de l'organisation d'une ruche.
Oui, alors c'est une querelle scientifique de majeure sur la question de savoir si les abeilles sont des machines, si en fait ce génie qu'on attribue à l'abeille, parce qu'on considère que l'abeille est un génie, notamment un génie géométrique. L'abeille est géomètre, elle est capable de résoudre des problèmes mathématiques à travers notamment la constitution des alvéoles et le fait d'avec le minimum de matière de faire le maximum de place, si je puis dire, parce que les alvéoles sont parfaitement géométriques, à ce point d'ailleurs qu'on a à un moment pensé d'en faire l'unité de mesure universelle de l'humanité.
Comme une horloge, d'ailleurs.
Comme une horloge, voilà. On s'est dit, le truc qui ne change pas depuis la nuit des temps, c'est l'alvéole de l'abeille. Prenons ça comme unité de mesure. Voilà, très simple. Bon, on est passé au maître, c'est peut-être plus efficace. Mais en tout cas, donc cette abeille, elle est géniale, en ce sens qu'elle est d'une intelligence supérieure pour résoudre les problèmes les plus complexes. Face à ce modèle du génie de l'abeille, il y en a un autre qui consiste à dire, c'est celui qui défendra Buffon, qui consiste à dire, pas du tout, c'est la mécanique. C'est-à-dire que l'abeille, grosso modo, elle a 6 pattes, eh bien, vous mettez n'importe quel objet de 6 pattes et vous aurez une alvéole. Il n'y a pas besoin d'être un génie de mathématiques pour y parvenir. C'est simplement, disons, un problème physique. Et le génie des abeilles, c'est simplement de la mécanique. Et donc, il y a les deux thèses qui s'affrontent, le génie de l'abeille ou alors un simple atome mécanique. Et puis après, vous avez des thèses plus complexes qui vont apparaître dans la biologie, où effectivement l'abeille est à la fois effectivement un organe d'une horloge sophistiquée, mais cet organe est quand même, ce rouage, pardon, est quand même suffisamment autonome pour pouvoir faire des mouvements qui sont quand même spécifiques. Donc il y a une marge de manœuvre. Voilà, on n'est pas tellement sorti aujourd'hui dans les débats scientifiques les plus pointus de cette hésitation entre une abeille mécanique dont on voudrait absolument expliquer, mettre même en logiciel les mouvements, et puis une abeille géniale qui nous fascine. Et tous les scientifiques aujourd'hui ne peuvent pas s'empêcher, quand ils regardent l'abeille, de retrouver le ton de Virgile, le ton d'Aristote ou le ton des plus grand poète de la nuit des temps, et c'est tant mieux.
Et Darwin, qu'est-ce qu'il en pense ?
Alors Darwin, dans sa théorie de l'évolution, a justement, lui, tenté de montrer effectivement que l'abeille était... il était nécessaire que l'abeille produise ce miel, produise ses alvéoles. La preuve, il les a produits. Donc d'une certaine façon, il fait de l'abeille une espèce de confirmation, même s'il ne va pas très très loin dans l'argumentation, il faut le reconnaître, une espèce de confirmation de toute sa théorie de l'évolution, alors qu'on lui opposait justement le fait que c'était plutôt une objection contre sa thèse.
Pierre-Henri Tavoyau, pour terminer, vous le dites, hein, ce sont des références qui courent de l'Antiquité à la période contemporaine, mais dans la culture occidentale, mais vous dites qu'on retrouve l'abeille dans toutes les cultures du monde.
Oui, oui.
Tous les temps, tous les univers, comme dirait
tous les en qui. Chine, en Inde, dans le monde musulman, on fait quelques incursions. C'est fascinant. Après, ça suppose de rentrer vraiment dans ces cultures, et on n'avait pas les compétences pour le faire, mais partout et en tout temps, on retrouve l'abeille.
C'était l'amour et c'était l'hiver, l'hiver et les sapins verts. C'était l'hiver et ses dangers d'hiver, l'amour et ses revolvers. C'était l'amour et ses baisers légers sur les pentes enneigées. Le 21 mars, l'hiver est parti. L'amour aussi.
Ce qui est très surprenant quand on aborde notamment la théologie chrétienne, c'est que, notamment dans l'Évangile, les abeilles avaient disparu. Très très peu de références, quelques références au miel, mais très peu de références aux abeilles. Et c'est peut-être pas anodin, c'est-à-dire que l'abeille était devenue dans l'Antiquité une espèce de symbole saturé, on va dire, un peu usé jusqu'à la corde. On la trouve dans la mythologie d'abord, dans la religion païenne, comme nous expliquons le secret des rapports entre nature et culture. C'est le mythe d'Aristée. On le retrouve dans la cosmologie grecque comme étant le reflet de l'harmonie cosmique, et puis chez Virgile comme, disons, un guide de vertu, on va dire. Donc ça faisait beaucoup. Et c'est vrai que la religion chrétienne, au départ, a voulu un peu rompre avec ça, avec en plus cet inconvénient qu'avait l'abeille, c'est que l'abeille était une espèce d'intermédiaire entre le monde divin et le monde humain. Or, dans le christianisme, il y a quelqu'un qui a le monopole de l'intermédiation entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et donc, on laisse plus l'abeille volter entre les deux. C'est, voilà, il y a un monopole qui a lieu. Donc, il est assez normal que l'abeille soit absente, en quelque sorte, des évangiles. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette absence ne va pas durer très longtemps. La disparition de l'abeille, c'est thème classique, en fait, va être de courte durée, puisqu'on la voit réapparaître très vite chez les pères de l'Église. Avec un nouveau rôle, nouvelle mission. Voilà. Nouvelle mission, c'est plus nous dire les secrets de la nature et de la culture, c'est plus entre les hommes et les dieux. L'abeille devient ce qu'on pourrait dire une parabole. Comment devenir un bon chrétien ? Et l'idée qui va être défendue dans la théologie chrétienne, c'est vraiment de dire à l'individu, regarde l'abeille et tu seras un bon chrétien. C'est en quelque sorte un évangile pour les nuls. Regarde l'abeille et tu seras le meilleur chrétien possible, parce que l'abeille est vertueuse, parce que la ruche incarne en fait l'Église, parce que chaque chose est à sa place, parce que...
Tout le monde respecte l'ordre établi.
L'ordre établi, en même temps avec une dimension de liberté, c'est assez notable. On vole, l'abeille vole, s'élève, le miel est doux. Et cette douceur incarne bien l'idée chrétienne, voilà, de l'amour, de la... Bon. Donc tout ça fonctionne très très bien, et on va le retrouver dans plusieurs dogmes, dans plusieurs utilisations en quelque sorte. Il y a l'utilisation pour expliquer des dogmes comme la virginité de Marie. Alors il faut bien distinguer l'Immaculée Conception, c'est le fait que Marie soit née hors conception, de la virginité de Marie, c'est le fait que Jésus soit né d'une vierge. Les deux dogmes sont différents. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que... Évidemment, la virginité de Marie, c'est quand même un dogme un peu gros pour quiconque que n'est pas chrétien. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que les grands penseurs, les grands pères de l'Église, vont en fait utiliser la ruche pour dire que, en substance, et d'ailleurs ce que dira typiquement saint Augustin, ce n'est pas la virginité qui est exceptionnelle, c'est la sexualité des humains. Voilà. La normalité, c'est la sexualité humaine, autrement, dans la nature... la virginité d'une mère, ça existe. Regardez la ruche. Puisqu'on n'avait jamais vu de reine copuler, eh bien, on voit très bien que dans une ruche, et il peut se passer d'une reproduction sans copulation, sans sexualité. Ce qu'on appelle d'ailleurs, et c'est pas faux, hein, il y a un phénomène de parthénogenèse dans la ruche. La parthénogenèse, je le rappelle, hein, c'est Parthénon. Parthénon, c'est un temple consacré à Athéna, vierge. Parthénogenèse, c'est-à-dire la reproduction, non pas spontanée, hein, pas la génération spontanée, mais la reproduction, parce que les animaux ont à la fois un sexe mâle et un sexe femelle, donc arrivent à se reproduire en quelque sorte tout seuls. Alors simplement, dans la ruche, les ouvrières ne peuvent reproduire que des bourdons, c'est-à-dire que des mâles. Et seule la reine dispose de la capacité, parce qu'elle a été fécondée en vérité, de reproduire à la fois des mâles et des femelles. Voilà. Donc s'il n'y a pas de reine, effectivement, la ruche devient, comme on dit, bourdonneuse ou bourdonnante. Elle ne peut plus fonctionner correctement. Mais donc, on se dit, voilà, l'argument qui permet de justifier la virginité de Marie, c'est la ruche. Donc ça, on va l'utiliser très fréquemment. Il y a une autre thématique qu'on retrouve, qui est la veillée pascale et la cire utilisée pour faire le cierge. Alors ça, c'est un moment magnifique, très beau, parce que...
Et troublant.
Et troublant, parce que, effectivement, cette cire est une espèce de critique et en même temps de récupération des sacrifices païens. On va bien le dire, la cire, c'est la cire d'abeille, donc on utilise quelque chose de l'animal, mais ça n'a rien de sanglant, ça n'a rien de païen, et c'est simplement un hymne à la foi du chrétien. Et alors, il y aura une prière lors de la veillée pascale qui va être utilisée très souvent, qui sera l'exultet. Alors c'était une cérémonie très belle, paraît-il. On laissait tomber une espèce de texte magnifiquement enluminé. Dans le livre, on présente quelques enluminures qui montraient notamment les abeilles en éloge à la cire d'abeille. Alors, le problème, c'est que ce texte qui servait de prière aux chrétiens était en fait un plagiat éhonté d'un poème de Virgile. ce qui fait un peu désordre quand même dans une religion qui était quand même censée rompre avec le paganisme. Ça a suscité une querelle phénoménale entre différents pères de l'Église. Certains, comme saint Augustin, trouvaient que cette prière était quand même très belle, surtout que c'était son maître Ambroise, par ailleurs le patron des apiculteurs, qu'il avait créé, reprise. Et puis d'autres vont être beaucoup plus critiques. Augustin, soit dit en passant, qui était apiculteur lui-même, hein, avec beaucoup de ruches, etc. Et donc ça faisait un peu désordre, et donc très vite, cette prière va être critiquée, très tôt. Dès le 4e siècle après Jésus-Christ, on va critiquer cette prière, mais il va falloir attendre le Concile de Vatican II pour que cette prière soit supprimée. Donc c'est vous dire la persistance de cette prière qui vantait l'abeille, encore une fois, comme étant le modèle du bon chrétien. Parce que l'abeille est pure, l'abeille est fidèle, l'abeille est rationnelle, l'abeille prévoit, l'abeille ne gâche rien. Ne gâche pas son entourage, ne pollue pas, elle se sacrifie, elle est subtile, elle est fine, elle vole, elle s'élève. Enfin, toutes les vertus sont attribuées à l'abeille, donc voilà, si vous voulez être un bon chrétien, suivez l'abeille.
L'abeille qui ressemble aux autres et qui pourtant a un statut particulier, comme si c'était l'envoyé spécial de Dieu, un prophète.
Oui, Déborah, c'est alors ça c'est dans la théologie juive où effectivement Déborah est la prophète et DBR signifie parole et c'est finalement et en même temps abeille et cette formule en quelque sorte constitue alors là une trace dans l'Ancien Testament beaucoup plus présente de l'abeille qu'on retrouve à de multiples reprises. L'abeille qui disparaîtra dans le christianisme a un rôle très consistant dans le judaïsme et d'ailleurs aussi dans l'islam,
oui.
Pour reprendre aussi cette, puisqu'il y a une fameuse sourate de l'abeille qui parle d'ailleurs assez peu des abeilles, mais qui montre que la puissance symbolique
de l'organisation de la ruche.
De l'organisation de la ruche et de l'orientation de l'abeille. Encore une fois, pour être un bon musulman, il faut regarder de près cette abeille. Donc on a vraiment, dans les trois grandes religions monothéistes, cette fonction, j'allais dire parabolique, de l'abeille, c'est-à-dire de guide spirituel.
Et cette ruche allégorique que vous décrivez si bien avec votre frère apiculteur dans cet ouvrage édité par Odile Jacob, L'abeille et le philosophe, Pierre-Henri Tavoyot, cette ruche allégorique existait bien avant les religions, elle existait à l'époque d'Ulysse par exemple, et c'était aussi le mystère qui passionnait les hommes.
Oui, parce que alors on trouve notamment un texte d'un néoplatonicien qui s'appelle Porphyre. Un néoplatonicien, c'est d'ailleurs assez simultané des premiers pères de l'Église, qui se lance dans une interprétation qui peut nous paraître tirée par les cheveux d'Homère, parce qu'il y a dans Homère, au moment où Ulysse arrive dans son île, Ulysse arrive dans une grotte. Dans cette grotte, il y a des pleins d'ouvertures bizarres, et puis il y a des amphores de miel. Et Porphyre essaie d'interpréter ce texte étrange. Alors il se lance dans presque c'est une enquête policière et il dit mais les choses sont très simples. En fait, le voyage d'Ulysse, c'est un voyage des âmes dans le monde.
Oui, parce qu'il y a l'obscurité et il voit tout.
Voilà, il voit tout. Donc on est dans le monde, ça incarne le cosmos. D'une certaine façon, en naissant, nous avons tous vu l'ordre cosmique ou avant notre naissance, mais nous l'avons oublié. Et nous allons passer toute notre vie à essayer de comprendre cet ordre cosmique qu'on a en quelque sorte oublié. Donc la philosophie, c'est une espèce de nostalgie, c'est une formule que reprendront les romantiques allemands, où on a un souvenir vague de quelque chose de magique et on va essayer de le retrouver, de le reconstruire, et on sera sauvé quand on y parviendra. Et c'est ça Ulysse, quand il arrive dans son île. Il retrouve son ordre, il retrouve le fait qu'il faut effectivement dépasser son corps, il faut s'envoler vers le divin éthéré, et c'est à cette condition qu'on arrivera à quoi ? À l'immortalité.
Alors justement, pour terminer, Pierre-Henri Tavoyot, puisqu'on a vu aujourd'hui les abeilles et leur reflet dans le monde des religions, est-ce que on peut parler, c'est une question d'actualité, d'intégrisme à l'intérieur d'une ruche ? Ou bien c'est un monde parfait, justement, le monde des abeilles?
Alors, là aussi, c'est difficile de... Parce que intégriste, ça serait d'y projeter en quelque sorte une lecture humaine et anthropocentriste. Je pense qu'on peut... on a dénoncé le caractère totalitaire de la ruche. Et certains penseurs politiques qu'on disait, mais vous n'imaginez pas tout de même qu'il faut imiter dans nos cités ce qui se passe dans une ruche. Ce serait terrible. Personne n'aurait le choix. Enfin, ça serait scandaleux. Sur le plan religieux, je ne pense pas qu'on puisse parler d'intégrisme de la ruche, mais il est clair qu'on a souvent corrélé, en quelque sorte, la réflexion religieuse à l'observation de la ruche. D'ailleurs, dans un sens ou dans un autre, la ruche représentait l'Église parfaite ou au contraire le symbole de l'hérésie. Et Luther, par exemple, utilise le terme « Schwärmerei », ça veut dire « essaimage ». L'essaimage, alors c'est très intéressant pour Luther, parce que Luther est quelqu'un qui peut paraître hérétique pour l'Église chrétienne, mais lui, il dénonce l'hérétique. D'une certaine façon, c'est pas lui qui a abandonné l'Église, c'est l'Église qui l'a abandonné. Et les vrais Schwärmer, ceux qui ont essaimé, c'est les méchants, c'est ceux qui sont complètement à côté de la plaque, c'est les catholiques délirants, qui sont d'ailleurs des médiocres, mesquins, etc. Et la Schwärmerei, c'est une espèce d'enthousiasme débile qui fait qu'on croit être dans le vrai alors qu'on est dans le faux et la vulgarité. Donc il dénonce ça très fortement, et on va trouver toute une série de symboles à l'époque du protestantisme, notamment ce magnifique dessin de Bruegel qui montre des apiculteurs qui sont en fait des inquisiteurs qui sont en train de fouiller dans les ruches comme les inquisiteurs fouillent dans les âmes des chrétiens. Et ces apiculteurs sont très inquiétants. Et on voit un petit bonhomme sur un arbre qui incarne celui qui essaime, mais pour aller voir ailleurs et aller voir effectivement une meilleure église. Et donc là, on a toute une série de symboles absolument passionnants. Ça a aussi servi à ça.
Est-ce qu'on peut conclure, Pierre-Henri Tavoyot, que la religion et ses intégrismes, ça reste quand même une histoire d'interprétation?
Évidemment, c'est une histoire d'interprétation, parce qu'on peut, en regardant la ruche, aussi bien trouver dans cette légèreté des abeilles quelque chose de très poétique et de très doux, ou au contraire justifier le pire des régimes et le pire des intégrismes. Donc les deux sont possibles. Encore une fois, l'abeille est un miroir idéal ou déformant. Il y a plein d'espèces qui disparaissent dans l'actualité. Il y a plein d'espèces qui sont fragilisées. Pourquoi est-ce que ce sont les abeilles qui passionnent autant ? C'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus archétypal, de beaucoup plus profond. Ce qu'il y a de plus profond, ce qui nous révèle cette profondeur, c'est par exemple le mythe d'Aristée, c'est-à-dire le premier mythe qui raconte, on voit les abeilles dans la mythologie grecque, c'est un mythe où les abeilles disparaissent. Donc on pourrait dire les abeilles ont commencé par disparaître. À l'origine, déjà, elles disparaissaient. Je ne raconte pas le mythe, peu importe, mais voyez que c'est quelque chose qui vient de la nuit des temps. Pourquoi ? Et la clé, elle est là. L'abeille, c'est à la fois le céleste et le terrestre, le naturel et le culturel. L'abeille produit du miel, même sans apiculture, de manière sauvage, et en même temps, elle peut le faire avec de l'apiculture.
Alors justement, ici c'était ça la véritable raison, Pierre-Henri Tavoyot. Ici, le travail de la ruche, de l'abeille, qui est un travail très pur, et ça vous l'avez bien expliqué, est l'exemple de l'écologie.
Oui, il est l'exemple de l'écologie.
Quand tout va bien, bien sûr. Hein.
Quand tout va bien, c'est-à-dire que...
Alors, harmonie entre les éléments, entre les animaux et l'humain, entre les plantes et les animaux, c'est voilà, on peut pas rêver d'une meilleure harmonie naturelle, non ?
C'est la juste mesure. C'est-à-dire que ça, c'est un thème récurrent dans toute la philosophie et même la théologie. Que les scientifiques valident, c'est l'idée d'une juste mesure, d'un équilibre. Mais j'insiste vraiment sur le fait que c'est un équilibre qui n'est pas, disons, un éloge excessif de la nature. C'est pas on adore la nature, c'est l'idée qu'il faut de la nature et de la culture. Mais pas trop de nature, parce que sinon c'est pourri. Pas trop de culture, parce que sinon c'est brûlé. Il faut être entre les deux. Et le grand mythe, alors je vais quand même le raconter un petit peu, les deux premiers mythes sont exactement l'illustration de cela. La première apparition de l'abeille dans la mythologie grecque, c'est chez Zeus. Zeus, vous savez, est sauvé par sa mère de la voracité de son père Cronos, et sa mère l'envoie en Crète pour être élevé, et Zeus va être élevé au lait de la chèvre et au miel, la douceur. C'est une idée très forte, c'est-à-dire que pour que le monde émerge, il faut de la douceur. Pour que l'ordre puisse apparaître, par rapport à la dureté et la voracité de Cronos qui bouffe tout, qui est effectivement plein d'énergie, mais c'est une énergie destructrice et désordonnée, il faut de la douceur pour pouvoir organiser les choses.
Mais comment ne pas être d'accord alors qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, pour cicatriser nos blessures, on a toujours besoin du miel.
Absolument. Donc c'est vraiment cette fonction de cicatrisation, cette fonction de douceur. Là où il y a de la violence, on met du miel, on met du baume sur le miel. Donc c'est cette idée est présente mythologiquement et médicalement. C'est là où on voit que les assonances sont présentes. Mais en même temps, et ça c'est très puissant, et c'est là où il faut penser une culture subtile, une écologie subtile. Trop de nature, c'est dangereux. Trop de nature, c'est dangereux, c'est le deuxième mythe. Le deuxième mythe, c'est le mythe justement d'Aristée. Aristée, le gardien des abeilles. C'est pas totalement un dieu, c'est un héros, un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et un jour, Aristée, eh bien, il voit disparaître ses ruches. C'est pas vrai. Voilà. D'un seul coup, toutes ses ruches disparaissent. La première disparition des abeilles, vous voyez, le premier mythe. Alors, il va voir sa mère, Cyrène, pour lui demander ce qui s'est passé. Et Cyrène lui dit d'aller voir un devin. Le devin lui dit, c'est toi qui es responsable de la disparition de tes abeilles. Pourquoi? Parce que tu as causé la mort d'Eurydice. Eurydice était la femme d'Orphée, venait de se marier, et le jour du mariage d'Orphée et d'Eurydice, eh bien Aristée, qui est un mec sympa, vraiment, c'est quelqu'un de vraiment très sympathique, le gendre idéal, il pète un câble, Aristée, et il se met à courir après Eurydice en essayant de la poursuite de ses assiduités.
Voilà.
Et Eurydice s'enfuit, court, ne voit pas un serpent qui la mord, et elle tombe foudroyée. Donc, Aristée est le responsable de la mort d'Eurydice. Qu'est-ce que ça nous dit? Eurydice et Orphée. Orphée, c'est le poète parfait. Orphée est tout miel. Orphée n'est que douceur. Il n'est que culture, d'une certaine façon. Et avec sa nymphe, Eurydice sont partis pour une lune de miel. Une lune de miel sans fin. C'est pas réaliste. On ne peut pas s'installer dans la culture, dans la lune de miel sans fin. Il faut penser au principe de réalité. Et donc, en quelque sorte, Aristée est missionné par les dieux pour dire stop. Voilà. Ne vous allez pas. Votre lune de miel doit s'arrêter. Vous êtes très beau. Vous êtes très poète, etc. Mais on ne vit pas d'amour, de poésie et d'eau fraîche. Il faut aussi penser au monde réel. Donc, trop de culture, ça ne marche pas. Trop de nature, ça ne marche pas. Il faut avoir la bonne mesure entre les deux.
Pierre-Henri Tavoyau, vous qui avez signé avec votre frère apiculteur François Tavoyau chez Odile Jacob, l'abeille et le philosophe, étonnant voyage dans la ruche des sages. Au-delà de votre discours, j'allais dire scientifique, d'universitaire et d'apiculteur, la disparition des abeilles, est-ce que ça vous inquiète comme nous tous?
Oui, il faut être inquiet, mais pas être affolé. Je pense qu'il faut se méfier d'une idéologisation de la disparition des abeilles. C'est plutôt ça, c'est l'usage politique. Je veux dire par là, il y a parfois sur Internet des petites choses qui sont un peu agaçantes. C'est-à-dire adopter une ruche, adopter une abeille, et contre espèce sonnante et trébuchante. Voilà, parce que vous allez sauver la planète en faisant un petit don comme ça. Ça frise parfois un peu l'arnaque. Donc il faut faire très très attention. Sur le fait qu'effectivement, il y a des causes qui sont identifiées. Il ne faut pas en faire trop, parce que ça ne rend pas service aux abeilles, ça ne rend pas service à l'écologie, et ça ne rend service à personne, ni à la démocratie, en exagérant une menace pour justement jouer sur le registre de la peur. Je pense qu'il faut jouer sur le registre de la raison, le registre des causes identifiées, être inquiet, mais sans jouer le catastrophisme à tous égards. Voilà, je pense, raison gardée, et c'est aussi une petite leçon de mesure du point de vue philosophique. À l'époque moderne, soyons clairs, l'abeille est un objet de science. On la décortique, on l'analyse, on étudie son génome, son comportement. C'est bon, c'est plus un symbole. C'est devenu quelque chose, un objet de science. Et là, c'est là où c'est très étonnant. Non seulement ce n'est pas devenu un objet de science comme les autres, c'est-à-dire que les scientifiques continuent à jouer la carte de la poésie, et encore une fois, c'est tant mieux quand ils l'évoquent, mais par ailleurs, elle continue à nourrir une réflexion modélisatrice. C'est-à-dire qu'on va chercher dans l'abeille alors des modèles très surprenants. J'en cite trois petits comme ça en passant avant de venir au plus essentiel. Le buzz de l'ère Internet, la rumeur, c'est le bruit de l'abeille. Bzzz. Le drone en anglais, c'est le bourdon, c'est le faux bourdon. L'examen. Quand on passe un examen, c'est essaim en latin. Et donc, il faut voir que quand on passe un examen, il faut faire sortir les idées comme des abeilles sortent du cerveau. Voilà. Donc, on a un usage qui continue à fonctionner.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'Internet, la toile, renvoie à l'organisation d'une ruche, ou est-ce qu'on est, comme vous le précisez très bien d'ailleurs, dans l'overdose métaphorique?
Alors, ce qui est d'abord paradoxal, c'est qu'on parle de la toile. Donc, la toile, c'est plutôt l'araignée.
Bien sûr.
Et l'abeille se prend les pieds ou les pattes dans la toile d'araignée. Mais non, ça marche assez bien. L'exemple est très simple. Ce qu'on appelle le capitalisme pollinisateur. Alors, donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la ruche et la pollinisation va permettre de penser un nouveau capitalisme.
Quand je pense qu'avec ce même terme, Daniel Cohn-Bendit rêvait d'un autre monde.
Exactement, c'était dans son appel après sa victoire aux élections européennes d'Europe Écologie, il lançait un mouvement politique bon, qui n'a pas fonctionné, mais malgré tout l'idée est dans l'air du temps, où il l'appelait à la pollinisation, c'est-à-dire un parti pollinisateur. Alors quelle est l'idée? Elle est en fait très simple et en même temps très profonde. C'est un des amis et conseillers de Cohn-Bendit qui l'utilise, Moulié Boutang. Elle est très éclairante. Quand une abeille va récolter le nectar sur les fleurs pour en faire du miel, elle y va pour elle-même. Donc elle va récolter le nectar, mais en récoltant le nectar, elle contribue à la pollinisation, c'est-à-dire à la reconstruction en quelque sorte de son environnement. Donc c'est une récolte qui, loin d'abîmer l'environnement, non seulement ne l'abîme pas, mais contribue à sa reproduction et à son augmentation. Donc, si vous arrivez à transposer ça dans le modèle économique, c'est extraordinaire parce que vous avez une ponction de valeur qui, au lieu d'amoindrir la valeur des choses, contribue à l'augmenter. Application Google. Quand vous allez sur Google, vous cliquez pour vous. Vous cherchez de l'information, votre clic, c'est pour vous. Mais en cliquant, vous produisez de l'information. C'est-à-dire que le nombre de clics témoigne du fait que, tiens, il y a beaucoup de gens qui cliquent. Et ça produit une valeur qu'on appelle les big data aujourd'hui, des grandes données. Et cette valeur devient maintenant plus valorisée, en quelque sorte, que la valeur matérielle. Donc la valeur des données compte plus que la matérialité. Bien, si vous arrivez à produire un capitalisme de cet ordre-là, vous avez une espèce de rêve marxiste, c'est-à-dire, je pèse mes mots, hein, c'est-à-dire Marx considérait que ce qui avait de formidable dans le capitalisme, c'est que ça créait de la valeur. Ce qui avait d'un peu plus fâcheux, c'est que cette valeur était un peu mal partagée, si je puis dire, et qu'elle produisait des phénomènes de domination. Mais son rêve, c'était pas de détruire le capitalisme, c'était d'arriver à un capitalisme d'abondance,
mieux réparti.
Eh bien, on y est, disent les promoteurs de cette idée. Si on arrive à démultiplier ce capitalisme pollinisateur, on produit énormément de valeur tout en respectant l'environnement. Alors, Google n'est pas forcément le bon exemple ici parce que, Moulié Boutang et quelques autres, ça reste des entreprises privées qui ne sont pas dans le domaine du bien commun. Mais malgré tout, il y a dans ces nouvelles entreprises, Facebook, Google ou Twitter et quelques autres, enfin Twitter ne va pas très bien, mais quelques autres, des éléments qui sont très prometteurs pour une régénération de l'économie à venir. Voilà. Donc CQFD, si vous voulez réformer l'économie, eh bien regardez la ruche.
Est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle aussi pour les abeilles?
D'intelligence collective. Alors ça, c'est le deuxième modèle. Après avoir réformé le capitalisme, la ruche va réformer la démocratie. Alors, comment ça peut se passer? C'est dans une étape, alors il y a toute une série d'auteurs qui l'ont développé, et des auteurs très sérieux, hein, j'insiste beaucoup, dans un moment de la vie de la ruche qui est le moment de l'essaimage. Qu'est-ce qui se passe dans l'essaimage? L'essaimage, c'est le moment où une ruche, pour différentes raisons, se divise. C'est en fait le moment où une ruche se reproduit. C'est qu'il y a une partie de la ruche qui élève une reine et qui part à l'extérieur. En général, les choses se passent comme ça. Cette partie de la ruche sort de la ruche et va se poser sur un arbre, un petit arbre à côté. Et là, il va falloir trouver un endroit pour crécher. Comment ça se fait? Ça se fait de la manière suivante. Ce petit groupe, qui d'ailleurs à ce moment-là pas du tout dangereux, c'est-à-dire qu'on peut, comme il n'a pas de maison à défendre, un essaim ne pique pas. Hein, on peut le prendre à main, hein, nue, si je puis dire, sans aucun problème. Mais cet essaim donc va envoyer des exploratrices dans les différentes régions, directions, pour essayer de trouver un endroit satisfaisant. Le cahier des charges, c'est une petite annonce immobilière, c'est il faut un endroit avec une taille assez correcte, pas trop, bien exposé, une petite entrée, si possible des meubles à l'intérieur, c'est-à-dire des alvéoles qui restent, c'est encore mieux, etc. Chaque exploratrice trouve des lieux et revient. Et là, elle va plaider sa cause. Elle dit, voilà, j'ai vu un truc super, j'ai visité un appart génial, un loft. Et elle fait une danse frétillante qui témoigne de son enthousiasme à l'égard du lieu qu'elle a visité. Le grand problème, c'est comment l'essaim décide de l'endroit dans lequel il faut aller. Alors ça, c'est tout à fait fascinant. Donc, ça a été étudié de manière extrêmement approfondie par notamment Thomas Seeley, qui est un scientifique américain qui est extraordinaire d'études. Il met toute une série d'obstacles, il met un protocole de recherche pour mettre du bâton dans les roues dans ses abeilles. Il leur propose des maisons aussi belles les unes que les autres, ce qui fait que toutes les abeilles sont enthousiastes en revenant. Bon, enfin, je passe là-dessus, mais il décide ce qu'on voit à peu près, c'est qu'à un moment donné, disons, une abeille particulièrement enthousiaste fait se taire les autres. Elle n'arrive pas à les convaincre, mais elle fait se taire les autres et collectivement et de manière unanime, l'essaim va dans une direction. Voilà. Alors si on pouvait faire la même chose en démocratie, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire si on pouvait faire la même chose en démocratie, on aurait des décisions toujours consensuel. Donc vous voyez, j'ai négocié la dette avec la communauté européenne, j'ai fait une bonne négociation, mais au lieu de vous convaincre, je danse.
Tête chercheuse, une émission de Toufik Hakem réalisée par Thomas Duterre. Et cet été, c'est tous les samedis à 7h05. On se retrouve donc la semaine prochaine, samedi prochain, en compagnie du jeune philosophe Tristian Garcia, amateur de bande dessinée, pour nous parler justement de l'art des âges et des images. Pourquoi la bande dessinée, qui est passée quand même à un âge adulte depuis des années, reste toujours intimement liée à l'enfance? Bonne matinée, bon week-end sur France Culture.